Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro en direct du Buzz TV de TV Magazine. Nous sommes partis pour une demi-heure de direct avec vous, toutes vos questions et notre invité du jour qui est un véritable homme orchestre de la télévision française. À la seule différence près que lui, vous allez le voir, il ne joue pas du pipeau. En revanche, il incarne tambour battant de nombreux programmes sur la première chaîne de France, à commencer par ce divertissement où il a beau tenter d'accorder ses violons avec son ami Denis Brognard, il peut lui arriver de jouer une fausse note et de terminer au fond de la piscine. Et dans quelques jours, ce journaliste qui officie également sur LCI s'apprête à faire vibrer la corde sensible dans une émission où il va se dévoiler à corps perdu. Bonjour Christophe Beaugrand.
Magnifique métaphore musicale. Écoutez, filée tout au long de ce sommaire, je suis admiratif.
Ça, c'est de minuit à 4h du matin, vous voyez.
J'ai vraiment que ça à foutre.
J'ai que ça à foutre.
Bonjour à tous, merci de m'avoir invité.
Alors Christophe, Ninja Warrior, le parcours des héros, oui. C'est donc le titre de l'émission que vous animez aux côtés de Denis Brognard, d'Iris Mittenaar, chaque samedi à 21h05 sur TF1. C'est une compétition dans laquelle des candidats, on le rappelle, doivent franchir un parcours réputé insurmontable, le plus rapidement possible, c'est mieux. S'ils tombent, ils finissent dans une piscine. Et comme je disais en introduction, il y a quelques années, c'est vous qui avez goûté à la fraîcheur de l'eau.
C'était en saison 2, si
c'était
je me rappelle
en saison
bien.
2. Je crois que c'était la première, même en 2016.
C'était la saison 2. Il n'avait pas osé sur la première saison.
C'est ça. Denis Brognard, on le rappelle, vous avez lâchement poussé. C'était vraiment pas
c'est
top.
Minable, ouais.
Est-ce que vous allez prendre votre revanche un jour?
Il est beaucoup trop grand.
Il est beaucoup trop grand.
Je vous rappelle qu'il mesure 1m93, donc c'est pour ça que j'ai l'air d'un petit nabo à côté de lui. Je ne suis pas si petit pourtant, mais quand les gens me croisent dans la rue, ils me disent « Ah, mais vous êtes grand en fait, mais à côté de Denis Brognard, je fais 1m80 moi, mais Denis Brognard est beaucoup trop grand. »
Donc vous dites que Denis Brognard s'attaque à plus petit que lui. Hein,
évidemment,
c'est ça,
voilà, évidemment, Denis Brognard est lâche avant tout. Non, mais c'est vrai qu'on a réussi à construire en quelques années maintenant. On vient de tourner donc la cinquième saison, celle qui est diffusée en ce moment. Une vraie complicité, on s'entendait bien, on se connaissait dans les couloirs. Mais vu qu'ils faisaient des émissions essentiellement sportives, etc., je me disais que jamais on aurait l'occasion de bosser ensemble. Et puis on m'a proposé, alors je ne m'y attendais pas du tout, Ninja Warrior. Et depuis, on est vraiment plus proches que jamais. C'est un bonheur de le retrouver tous les ans, avec Iris aussi pour cette équipe. Mais particulièrement Denis, parce qu'on est vraiment en tandem tout au long de l'animation de cette émission.
Oui, c'est ça, deux animateurs pour un seul et même programme. Comment vous répartissez les rôles? Vous êtes un petit peu la touche humour du binôme, quand lui, il est un peu plus premier degré sur les performances physiques.
Ouais, peut-être. Je suis sans doute un peu plus dans l'humain par rapport au candidat, et lui, plus dans la performance sportive. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a un peu déteint l'un sur l'autre. Il fait beaucoup plus de vannes qu'il n'en faisait il y a 5 ans. Et moi, je m'essaye parfois au commentaire sportif. Alors, il arrive mieux dans la vanne que moi dans le commentaire. On commence à très, très bien se connaître. Donc, on sait sur quoi s'appuyer, on sait ce que l'autre va dire. Et c'est pour ça que c'est très fluide entre nous. C'est marrant, mais j'en parlais l'autre jour à des amis. Je dis, mais c'est un peu finalement, je ne compare pas, mais comme Thierry Roland et Jean-Michel
Larqué. C'est Larquet, un peu ça, non mais c'est vrai.
Il y a un moment donné, ou comme Margoton avec Vicente Lizarazu, c'est qu'à un moment donné, quand on est un duo, un tandem, et qu'on passe des heures ensemble à s'écouter, à bosser ensemble, à se marrer ensemble, on a les réflexes, on connaît l'autre, on sait bien comment il fonctionne.
Oui, c'est ça, il y a une forme de naturel qui est assez plaisante.
Une vraie complicité en tout cas.
C'est ça, on va y revenir dans quelques instants. Je rappelle que nous sommes en direct sur Figaro Live, sur la page Facebook de TV Magazine et sur le Figaro.fr. Vous pouvez poser toutes vos questions à Christophe Beaugrand. Que pensez-vous de cette saison de Ninja Warrior, particulièrement musclée, c'est vrai?
Ah oui.
Ah oui, ça c'est vrai.
Musclée,
c'est qu'à
le dire. Il y a des abdos cette année.
Effectivement, vous l'avez d'ailleurs remarqué sur votre compte Twitter. Hein, j'ai vu. On en parlera tout à l'heure.
Vrai.
Est-ce qu'il vous arrive également de prendre tardivement votre petit déjeuner face à Christophe Beaugrand sur LCI? Est-ce que vous souhaitez aussi lui extorquer les numéros du loto? Profitez, il est là. On y revient dans quelques instants, juste après les news médias de Sarah Lecoeuvre. Salut Sarah.
Salut Damien. Bonjour Christophe.
Bonjour Sarah.
Alors Sarah, on va commencer comme toujours avec les audiences d'hier. Quelle chaîne est arrivée en tête? Bon, on a une petite idée quand même. Hein.
Bah, c'est votre chaîne Christophe,
bah, oui.
C'est TF1.
La meilleure.
Bah, la meilleure.
Et le succès se confirme pour La Promesse. Vous savez, c'est cette fiction,
c'est génial.
Avec Sophia Essaïdi que nous recevions hier sur ce plateau. Elle était avec nous. 6 900 000 téléspectateurs hier soir pour le troisième et le quatrième épisode. 32,7% du public. En part d'audience, c'est quasiment le même score que celui atteint la semaine passée pour le lancement. Et l'écart est gigantesque, hein, il faut le dire, avec France 2, qui est deuxième, mais avec seulement 2 millions de curieux réunis et 8,9% du public devant Envoyé spécial. La chaîne du service public est dans un mouchoir de poche avec M6, qui proposait 58 minutes pour vivre. C'est un film avec Bruce Willis, 1 900 000 cinéphiles et 9% de part d'audience. Et l'échec de la soirée est signé Cyril Hanouna en deuxième partie de soirée. Balance ton poste sur C8 a seulement rassemblé 330 000 curieux en moyenne et 1,4% de part d'audience.
Quand vous voyez 7 millions de téléspectateurs pour une fiction française sur TF1, ça vous inspire quoi, vous, animateur? Est-ce que vous avez envie d'incarner un rôle dans une fiction? Jamais?
Ah non, pour le coup, chacun son métier.
Des animateurs, vous savez, qui...
Oui, mais alors moi, je ne suis pas comédien. Moi, je suis vraiment... Je suis journaliste, ouais, présentateur, mais je n'ai pas de velléité. Un guest comme ça pour rigoler dans, ouais, une série, pourquoi pas, mais je ne me sens pas des velléités de comédien. Non, moi, je trouve ça très rassurant de voir que, contrairement à ce qu'on dit depuis des années, ouais, les Français aiment toujours leur télévision, et une grande chaîne comme TF1 peut encore proposer des grands rendez-vous fédérateurs. Ça peut être des belles fictions comme La Promesse. Moi, j'ai vu pour l'instant, hier, j'étais en retard. Moi, hier, j'ai regardé les 1 et 2 en replay. Mais c'est un super
polar. On va pas en dire plus alors.
Ah non, me dites pas la suite. Je vais le regarder ce soir. Non, mais c'est vrai que c'est une série très, ouais, réussie, et on voit qu'on a beaucoup progressé aussi, sans doute parce que les gens sont plus exigeants, le public est plus exigeant sur les séries avec Netflix ou d'autres. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la télévision, contrairement à ce qu'on croit et contrairement à ce qu'on dit, elle est hyper importante pour le lien social, pour réunir toute la famille. Il faut avouer que le couvre-feu nous aide aussi. Il y a plus de gens à la maison. Donc, la télé redevient l'élément central, ouais, pour se cultiver et se divertir.
Vous êtes assez optimiste sur l'avenir de la télévision pour...
Je ne dirais pas forcément ça, hein, ouais, parce que clairement...
Vous pensez que ça va mourir un jour, la télévision?
Non, je ne pense pas forcément qu'elle va mourir. Elle va devoir se transformer. Ouais. Aujourd'hui, elle va être délinéarisée, comme on dit. C'est-à-dire qu'on va consommer la télévision comme on consomme des sites de VOD, sans doute, un peu plus, en tout cas à la carte. Ouais. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, en tout cas pour les années qui viennent, je pense qu'on a encore un peu de travail. Ouais. Il n'y a que la télévision en France, pour l'instant, qui propose des grands rendez-vous comme ces fictions dont on a parlé, ouais, là, ou les grandes émissions de divertissement comme Ninja Warrior, que j'ai la chance d'incarner, ou The Voice, ouais, ou Mask Singer. Pour l'instant, aucune plateforme ne propose ce type d'offre. Et en information, c'est pareil. Donc la télé a encore de beaux jours devant elle.
Allez, on poursuit ces infos médias avec Bertrand Chamerois qui a un nouveau job. Bon, pas de suspense, c'est pas un boucher pour l'instant. Hein. Il reste un petit peu dans l'univers des médias quand même. Hein.
Complètement. D'après les informations du Parisien, le chroniqueur le plus en vue du PAF, on peut le dire, hein, va intégrer la matinale d'Europe 1, animée par Mathieu Béliard, pour livrer un billet humoristique du lundi au vendredi sur un fait d'actualité. Alors, cette activité s'ajoute à sa chronique déjà quotidienne dans l'émission de Philippe Vandel, qui est consacrée aux médias. Et il est également, vous le savez, chaque vendredi sur le plateau de 7 à vous pour se moquer, toujours avec bienveillance, nous avait-il confié, de la télé et de la radio. Alors, cette annonce survient juste après la publication des audiences radio de la rentrée. Europe 1 accuse encore le coup avec la perte de 500 000 auditeurs en un an, tout comme la matinale qui a perdu 300 000 auditeurs sur la même période.
Christophe, vous faites partie de la bande des grosses têtes sur RTL, oui, mais est-ce que ça vous tenterait d'incarner un programme à la radio?
Ah oui, évidemment. Ouais. Je l'ai fait un peu sur RTL à plusieurs reprises. Oui. J'ai pendant 3 ans fait présenter les petits matins, ouais, sur RTL pendant les vacances. Je faisais le 5-7, ouais, l'été à Noël. Donc oui, effectivement, c'est très intéressant. À RTL, ça va être compliqué aujourd'hui parce que c'est M6 qui décide.
Oui, c'est
je suis
décide,
une personnalité, ouais, TF1.
Même si Laurent Ruquier est sur RTL et en même temps officier sur France.
Oui, mais Laurent Ruquier était une star préexistante, entre c'est guillemets, vrai, à RTL et très important pour la grille d'RTL. Ouais. Moi, en l'occurrence, mes velléités sur RTL ont été un petit peu tuées dans l'œuf depuis le rachat total, ouais, par M6. Mais effectivement, pourquoi pas, ça fait partie des projets que j'ai en tête. Mais je suis très heureux d'être dans l'équipe de Laurent Ruquier. On s'amuse, ouais, énormément et croyez-moi, être payé pour se marrer, ouais, c'est un luxe que je souhaite à tout le monde.
Et Europe 1 ne vous a jamais appelé? On sait qu'Europe 1 est assez
déjà
friand des visages d'antenne qui sont à la télé. On a Julien Bugier.
Non, mais on s'est parlé avec Europe 1 et à, ouais, chaque fois, ça ne s'est pas fait parce que ou j'étais pas disponible ou les propositions qu'on m'a faites ne convenaient pas, n'étaient pas intéressantes, mais pourquoi pas. Europe 1, c'est ma radio de cœur et ma radio d'enfance, pour tout vous dire. J'y ai travaillé longtemps avec Laurent Ruquier dans On va se gêner. C'est, ouais, avec lui que j'ai commencé mes collaborations. C'est avec Europe 1 que j'ai commencé mes collaborations avec Laurent Ruquier, et c'est une radio que j'affectionne particulièrement, et ça me fait de la peine parce que j'ai encore beaucoup d'amis, ça me fait de la peine de voir que Europe galère, et c'est une magnifique marque et c'est une radio qui mérite, et il y a encore plein de gens vraiment extraordinaires sur cette radio, je l'écoute toujours beaucoup le week-end notamment, je trouve qu'il y a des très bons programmes, et c'est vrai que voilà, c'est une radio qui a beaucoup de potentiel, donc moi j'y crois encore et ça me fait un peu de peine qu'il galère comme ça dans les sondages.
Bon, on espère que l'horizon va s'éclaircir un petit peu pour Europe 1. Alors, vous parliez d'M6, sachez que justement cette chaîne est au cœur de l'actualité parce qu'elle vient de dévoiler quelques détails sur la nouvelle saison de Marie au premier regard.
Oui, la saison 5 est en boîte, ça y est, et ce que l'on peut déjà vous révéler, c'est que des jumeaux figureront au casting casting pour la première fois. Les deux hommes de 36 ans seront chacun associés à une célibataire, compatible après analyse de tests réalisés par les experts de l'émission de télé-réalité. Alors qu'un premier mariage homosexuel était envisagé dans le programme il y a encore quelques mois, eh bien finalement, ce sont sept couples hétérosexuels qui ont été invités à s'unir à la mairie de Grance dans les Bouches-du-Rhône, un nombre identique à l'édition précédente, où seuls Élodie et Joachim sont toujours ensemble encore aujourd'hui.
Christophe, est-ce que vous pensez que les couples homosexuels sont bien représentés à la télévision ? On sait que dans L'Amour et dans le Pré, récemment, ils ont aussi ajouté des couples homosexuels au casting.
Je pense que c'était même le couple phare de la dernière saison. Je pense qu'il y avait deux couples vraiment marquants, et notamment ce couple de garçons particulièrement émouvant. Et je pense que ça avance beaucoup, qu'on progresse beaucoup sur la représentation et la visibilité de l'homosexualité à la télévision. Je pense que c'est important. Il ne faut pas non plus faire de quotas, ce genre de choses. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous disiez, voilà, si, pour cette émission, s'ils n'ont pas trouvé le bon couple, il ne fallait pas en rajouter un pour en rajouter un. Je pense que ce n'est pas forcément comme ça qu'on va y arriver. En revanche, je vois dans les émissions d'Égypte, par exemple, ou l'émission des mariages qui était diffusée sur TF1, régulièrement, il y avait des couples homosexuels. On n'en a pas fait un zoom particulièrement. Ils participaient au même titre que les autres candidats de cette émission. Et c'est très bien. Dans l'émission que je présentais l'année dernière, La bataille des couples sur TFX, une émission de télé-réalité avec des couples, il y avait un couple de filles, en l'occurrence. Et elles étaient participantes au même titre que les autres. On n'a pas mis un coup de projecteur particulier. Je pense que c'est l'idéal pour, entre guillemets, j'aime pas cette expression, mais pour normaliser les choses. En tout cas, rendre visible.
Il faut que ce soit naturel.
Rendre visible, c'est important. Et c'est fait partie des raisons pour lesquelles je prends souvent la parole sur ces sujets-là et que je me montre aussi parfois sur les réseaux sociaux, dans la presse, parce que c'est comme ça, je pense, qu'on fait avancer les mentalités. Et je le fais aussi parce que quand on a une certaine notoriété, je pense qu'on a aussi des devoirs. En tout cas, c'est comme ça que j'envisage les choses. Et du coup, j'essaye de faire avancer les mentalités pour ceux pour qui le quotidien est peut-être moins facile et qui subissent l'homophobie. J'ai la chance, moi, de l'éviter, hormis les attaques sur les réseaux sociaux. Mais sinon, j'ai toujours été privilégié. Donc, si jamais on peut faire bouger les choses, je pense qu'il faut le faire.
Eh bien, nous, on est des privilégiés aussi. Et vous savez pourquoi ? Parce que demain, il y a Ninja Warrior. Et on va pouvoir regarder Ninja Warrior. Et surtout, on en parle tout de suite dans l'interview du Buzz TV. Christophe, TF1 poursuit la cinquième saison de Ninja Warrior, le parcours des héros, donc samedi à 21h05 sur TF1. C'est une émission que vous portez avec Denis Brognard et Iris Mittenard. Cette édition a débuté le 2 janvier, date de votre anniversaire.
C'est alors, quelques bon jours augure.
Retard, bon anniversaire.
Merci, c'est gentil. Ah non, mais alors là, j'ai eu un super cadeau. On a eu une audience record pour le lancement, donc c'est magnifique.
Mais est-ce que TF1 ne serait pas un peu radin ? C'est une façon de vous offrir un cadeau, de vous offrir un cadeau à moindre coût, c'est ça ?
Je vous confirme qu'ils m'ont rien envoyé, mais et franchement, un prime à 4,5 millions, moi je trouve que c'est un très joli cadeau. Donc non, c'est évidemment le hasard. Bien sûr, ils n'ont pas prévu la diffusion de l'émission en fonction de mon anniversaire. Mais c'est vrai qu'il y avait un challenge cette année à diffuser l'émission en hiver. C'est une émission d'été en principe, un peu une sorte d'interville des temps modernes. Il se trouve qu'à cause du Covid, le tournage a été décalé. Donc on a tourné en septembre. Donc la diffusion, elle est arrivée là, à une période hivernale. Et c'est vrai qu'on se demandait si le public allait être présent. Parce que voir des gens en maillot de bain, torse nu, tomber dans des piscines sous des palmiers au bord de la mer, voilà, est-ce qu'on allait avoir envie de voir ça en hiver ? Je pense que ça réchauffe visiblement, puisque les scores sont magnifiques, donc on est ravis.
Mais alors justement, vous disiez qu'effectivement TF1 n'avait pas programmé cette émission en fonction de votre anniversaire.
Non.
On aurait pu le croire, parce qu'effectivement, avant c'était l'été, c'était le vendredi, maintenant c'est l'hiver et c'est le samedi. Pour quelle raison TF1 a décidé de changer déjà de jour et puis en même temps de saison ?
Alors on n'a pas eu le choix pour la saison. Pour le jour, ça je ne peux pas vous dire, je ne sais pas exactement comment ça s'est décidé. En fonction du jour de diffusion, il y avait peut-être davantage de programmes déjà prévus pour le vendredi. Il y a des programmes pour le vendredi, des programmes pour le samedi. En l'occurrence, nous, habituellement, on était diffusés en été le vendredi soir. Et il se trouve qu'on aurait dû tourner au mois de mars pour diffusion cet été, sauf qu'au mois de mars, on était en plein confinement. Donc, tout a été complètement annulé. On a même envisagé d'annuler purement et simplement cette saison 5 de l'émission. Et puis, il y a eu une fenêtre de tir au mois de septembre, une disponibilité à Cannes, là où nous tournons, et puis des mesures sanitaires qui nous permettaient d'organiser l'émission dans des conditions correctes. Donc, ce qu'on a réussi à faire, et le temps de faire le montage, et nous arrivons en janvier. Voilà.
Et dans quelle mesure le coronavirus a impacté le tournage de cette émission ? On a failli l'annuler, vous l'avez dit.
C'était particulier. C'est-à-dire qu'il faut imaginer que c'est une très grosse machine, hein, Ninja Warrior. On a 200 candidats à peu près, c'est-à-dire 4 émissions de sélection avec 50 candidats à chaque fois. Il y a plus de 200 personnes, de techniciens, de caméramans, de journalistes, etc. Donc, ça fait, c'est un village. Donc, il y avait des tests PCR tous les jours. On était dispatchés dans des hôtels différents pour se croiser le moins possible. Avec Denis Brognard, on était séparés par une plaque de plexiglas qu'on voit un peu à l'antenne de temps en temps sur certains plans, un peu de profil, mais sinon de face, on ne se rend pas compte. Et puis, par exemple, on n'avait plus de loge commune où on se préparait ensemble. On était préparés chacun dans nos chambres d'hôtel et on arrivait au dernier moment sur le tournage. On ne pouvait pas saluer les candidats, leur taper dans la main ou leur taper dans le dos ou aller dire bonjour au public. Moi, je me suis un peu... comme vous vous rendez compte, je suis bavard et j'aime bien discuter avec les gens.
Vous êtes assez loin des candidats, effectivement.
Ouais, c'est assez frustrant. Mais à l'antenne, avec le montage, ça ne se voit pas et on retrouve la même énergie. On était tous tellement heureux que ça a compensé aussi, je pense, tellement heureux de tous se retrouver et de pouvoir la tourner cette année, cinquième saison, que je pense que ça a compensé les problèmes qu'il y a pu y avoir. Et puis, évidemment, il y a les masques, on le voit, hein, les proches, le public est masqué. Ça, je pense que les Français s'y sont habitués.
Et dernière question sur ce sujet avant de passer aux questions des internautes. Ouais. Les obstacles, c'est une émission très tactile, c'est-à-dire qu'on doit toucher les obstacles.
Ah oui, je confirme.
Comment ça se passe? Les obstacles ont été tous désinfectés?
Oui, les obstacles étaient désinfectés régulièrement.
Ça prend un temps monstrueux.
Ah bah, le tournage a duré plus longtemps que d'habitude, je vous confirme. Ouais. C'est un tournage de nuit, hein, puisqu'il y a les effets de lumière, les effets pyrotechniques. Donc, on commence à tourner vers 20h à peu près et on tournait jusqu'à 3h du matin. Donc, c'était un tournage compliqué. Et puis, évidemment, chacun de nos candidats devait, avant de se lancer sur le parcours, se nettoyer les mains au gel hydroalcoolique. Et ce qui est marrant, c'est qu'on a été obligé de faire un gros test de gel hydroalcoolique parce que la plupart laissent les mains un peu glissantes ou gluantes. Donc, ce n'était pas possible pour réussir à attraper les agrès, à attraper les éléments des obstacles. Donc, on a dû faire plusieurs tests pour trouver le bon gel hydroalcoolique qui ne rend pas les mains glissantes et gluantes. Vous voyez, c'est le genre de truc qu'on n'y avait pas pensé. Puis, soudain, quelqu'un a dit « Mais on est sûr qu'il n'y aura pas de problème. » Et là, on s'en est rendu compte, mais un peu à l'arrache quand même. Et on s'est dit « Mince, mais ils se cassent tous la figure, c'est une catastrophe. Donc voilà, ça fait partie, on en rit aujourd'hui, mais ça fait partie de toute cette organisation. Et pour le coup, je salue la production TF1 Prod, les équipes de Frédéric Pedrazza et de Fred Carnet, parce que ça a été, c'est toujours une colonie de vacances à organiser, un peu compliqué. Vous rajoutez à ça le Covid, les équipes se sont vraiment déchirées pour réussir à sortir cette cinquième saison. Et on croise les doigts pour la sixième, le casting est ouvert, et on espère qu'on pourra la tourner au printemps. Tout dépend de Monsieur Castex.
Ça dépend de Monsieur Castex.
Et de la situation sanitaire, bien sûr.
J'espère qu'il n'y aura pas de conférence de presse dans les prochains jours.
Il y en aura, faites-nous confiance. À mon avis, il y en aura. On va voir.
Allez, Sarah, on va du côté des internautes sur la page Facebook de TV Magazine.
Oui, et puis il y a ce commentaire de Jean-Laurent que je vais lire. C'est un vrai bonheur de voir Christophe à chaque fois, et surtout, il est proche de son public. Voilà, je voulais vous lire ça.
C'est gentil. Jean-Laurent me suit depuis des années. Il m'envoie des messages. Il venait me voir à la sortie de Secret Story régulièrement.
Ah, c'est infidèle.
Il vient du Mans et je l'embrasse. Voilà. M'envoie des messages régulièrement. J'ai un fan, alors je le connais bien.
C'est-à-dire vous connaissez le pédigré de tous vos fans.
Mais Jean-Laurent est particulièrement fidèle. Motivé, on va dire, et fidèle.
Et je vais prendre cette question de Maurice. On parlait tout à l'heure des grosses têtes et il vous demande, que pensez-vous des récentes critiques concernant l'émission?
Ah oui, alors effectivement, on va le rappeler, l'émission a été accusée d'homophobie, de racisme par une association qui a écouté plusieurs émissions d'affilée et qui a jugé qu'il y avait des propos qui étaient discriminatoires.
Ça m'a fait un peu de peine pour tout vous dire ce qui a été écrit par cette association, parce que je pense qu'on se trompe complètement de combat et qu'on se trompe d'ennemi en visant une émission humoristique. Évidemment, quand on écrit des blagues, y compris des blagues d'humour noir, des blagues de mauvais goût noir sur blanc comme ça, ça peut sembler choquant, sauf qu'on ne peut pas comparer des plaisanteries dites au deuxième, au troisième, voire au dixième degré avec une déclaration officielle, sérieuse, premier degré. À un moment donné, le rire est important aussi et je pense que même pour le coup, savoir rire de soi, l'inclusion, c'est extrêmement important justement. Pour rire avec les autres, il faut aussi savoir rire de soi et c'est vrai que c'est un peu le jeu de massacre, les grosses têtes. On se moque tous les uns des autres, on se bâche, on s'envoie des piques et ça fait partie du jeu. Mais c'est vrai qu'accuser Karine Lemarchand et Mela Bédia de racisme ou Jean-Philippe, Laurent Ruquier, Stevie ou moi d'homophobie, ça n'a pas beaucoup de sens. Et je pense surtout qu'il y a des vrais combats contre le racisme, contre l'homophobie. Et pour le coup, je fais partie de ceux qui essayent vraiment de lutter contre ces maux de la société française aujourd'hui. N'importe qui me connaît et me suit sur les réseaux, ça sait à quel point ce sont des combats qui me tiennent à cœur. Donc, intéressons-nous vraiment aux choses importantes, au mec qui se fait casser la gueule parce qu'il est homo, qui se fait rayer sa bagnole en bas de chez lui, qui se fait insulter au quotidien. Parlons de ceux qui se font traiter de sales nègres sur les réseaux sociaux, mais n'allons pas chercher des poux à des gens qui font des blagues. Si on veut être Charlie, soyons Charlie jusqu'au bout. L'humour, il faut l'accepter, y compris quand ça vous concerne.
En tant que chroniqueur animateur, c'est vrai que vous devez de toute façon toujours tourner votre langue cette fois dans votre bouche avant de parler. Mais aujourd'hui, avec toutes ces pressions sur les réseaux sociaux, ces associations, est-ce que vous devez la tourner 14 fois dans votre bouche en vous disant peut-être que si je dis cette phrase, vais avoir des problèmes.
C'est pas facile parce que j'ai tendance à être un peu, être assez naturel, assez spontané. Ouais. Et du coup, parfois on a une vanne qui peut sortir, etc. Il faut rajouter beaucoup de smileys quand on veut faire des vannes sur les réseaux sociaux. Donc oui, on fait beaucoup plus attention. Ça, incontestablement, je peux pas vous dire le contraire. Sortir une vanne du tac au tac comme ça. Alors évidemment, sur RTL, aux grosses têtes, il y a une espèce d'espace de liberté qui permet de dire ça. Et je pense que les attaques dont on a parlé n'ont pas été tellement reprises parce que les gens savent qu'on est tous sincères dans nos démarches et qu'on est tous on essaye tous justement de travailler pour le vivre ensemble. Mais sur les réseaux sociaux, effectivement, il faut se méfier. Il faut faire très attention à ce qu'on dit aujourd'hui. Ouais.
Une dernière question concernant Ninja Warrior et après on passe à Star à nu. Ouais. Le principe de Ninja Warrior, donc on rappelle, ça reste le même.
Un parcours du combattant.
C'est ça. Voilà, il faut le franchir absolument. Quelle touche de fraîcheur vous avez apporté dans cette nouvelle saison pour éviter que le public ne se lasse? Parce que c'est vrai que le principe reste toujours le même. Il y a un parcours, il faut essayer de franchir des obstacles.
Alors il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Il y a le casting évidemment. On propose à la fois aux candidats qui sont déjà passés, qui veulent se frotter à nouveau au parcours et puis des nouveaux visages. Et puis, il y a tout un tas de nouvelles épreuves chaque année. Ça, c'est très important. On a des nouvelles mécaniques. On a rajouté un chronomètre. On a rajouté une épreuve qui s'appelle la tour d'acier. Effectivement, il est important de rajouter un peu de l'intérêt, de la curiosité. Ça fait un an et demi que l'émission n'était pas là. Donc, je pense qu'il y avait une certaine attente aussi du public. Et puis, comme je vous le disais, il y a des candidats qui reviennent d'une année sur l'autre. C'est aussi eux qu'il faut surprendre. Et les fans, ils regardent beaucoup l'émission. Si jamais vous leur mettez tout le temps les mêmes obstacles, les mêmes épreuves, ça ne va pas leur plaire non plus. Donc, c'est sûr qu'il est important de se remettre en question. Et chaque année, on regarde ce qui se passe dans les Ninja Warriors du monde entier, puisque cette émission existe partout, et on essaye de piquer des bonnes idées. Et pour tout vous dire, il y a même une épreuve que vous découvrirez cette semaine qui a été inventée par un téléspectateur. On avait lancé un concours avec Denis, on avait enregistré un message sur les réseaux sociaux. Et beaucoup de jeunes nous ont répondu. C'est un jeune élève ingénieur qui s'appelle Dorian, qui a 18 ou 19 ans, je crois, qui avait imaginé un obstacle, qui l'avait même dessiné, qui avait fait une petite maquette, et du coup, il a été sélectionné.
Il ressemble à quoi, cet obstacle?
Ah ben oui, c'est un truc absolument incroyable, qui tourne, c'est un truc...
C'est impressionnant.
C'est le cylindre inversé, je crois, si je ne me trompe pas, parce qu'il y a tellement de noms que je vais me tromper. Mais ce qui est génial, c'est qu'on l'a invité, il a pu assister au tournage, et il a vu donc ce petit sadique, parce qu'il est ingénieur, il n'a pas les muscles, hein, tu sens que les muscles ils sont surtout là, et il a vu surtout tous les gens tomber sur l'obstacle qu'il avait imaginé.
Est-ce qu'il est tombé lui-même dessus? On sait
pas. Non, il n'a pas essayé. Il a ricané quand les autres sont tombés. Il était ravi. Non, mais surtout, ce qui est génial, c'est que cette épreuve, elle a intéressé les autres ninjas du monde entier.
Donc,
peut-être que cette épreuve de Dorian va se retrouver dans la version néo-zélandaise, australienne ou américaine. Donc,
il a des royalties ou pas, Dorian? Du coup, on peut toucher de l'argent.
On l'a invité sur le tournage. C'est déjà beaucoup et il a toute notre considération. Je n'ai pas cette information.
Dommage.
Je n'ai pas cette information, mais connaissant TF1 Production, je pense pas.
Sinon, vous allez avoir beaucoup de demandes, à mon avis. Vous allez avoir beaucoup de projets.
Non, mais j'espère qu'on va remettre en place cette idée parce que j'ai trouvé ça génial.
Et c'est vrai que les téléspectateurs ne se lassent pas. J'ai donné quelques chiffres. Sur les deux premiers épisodes, plus de 4 millions de téléspectateurs. L'émission rassemble un enfant sur deux âgé de 4 à 14 ans.
Et on est monté entre la première et la deuxième émission de 48% à 52%, ce qui est énorme.
Et notamment sur la fameuse cible des Françaises responsables des achats de moins de 50 ans, vous êtes à plus de 30% en moyenne. Donc, effectivement, ça marche plutôt bien. Sarah, des questions?
Oui, j'ai cette question de Ryan. Est-ce que Secret Story reviendra un jour à l'antenne?
Alors, on en parlait avant.
Je crois que je la reçois, cette question, à peu près 3 fois par jour depuis 2 ans et demi que l'émission est terminée maintenant.
Donc, ça va revenir alors, s'il y a un appétit du public?
Il y a un appétit du public, il y a des fans, ça c'est sûr. Ouais. À ma connaissance, il n'y a aucun projet en ce sens pour le retour de Secret Story. Je sais que
la marque est toujours au sein du groupe TF1, on est d'accord?
Ça, je ne sais pas. Je sais que la marque appartient toujours à Endemol. Ouais. Je ne sais pas si elle a, pour le coup, là, il faudrait poser la question à TF1 et Endemol. Ça, j'ai pas l'information. Non, ce qui est sûr, c'est que on va fêter au printemps, là, dans quelques semaines, les 20 ans de la télé-réalité. C'était en l'occurrence le Loft qui avait lancé les hostilités sur ce genre télévisuel. Ça sera au printemps là. Je sais qu'il y avait un certain nombre de projets qui étaient en cours. À ma connaissance, rien n'a été signé et pas de retour de Secret Story. La problématique, c'est qu'aujourd'hui, les télé-réalités ont beaucoup évolué et je pense que le genre de télé-réalité d'enfermement quotidienne a peut-être un peu vieilli. En tout cas, il faudrait peut-être le penser différemment. Oui. Et puis le problème, c'est que ça coûte extrêmement cher et que ça n'est pas nécessairement rentable parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus sur des grosses chaînes généralement qu'on voit ce type de programme, mais sur les chaînes comme TFX, W9 ou Energy 12 et que ces chaînes-là n'ont pas le même budget qu'un mastodonte comme TF1 et que ces émissions de télé-réalité en direct coûtent très cher. Vous imaginez les Anges ou la Villa des Cœurs Brisés, pour prendre un exemple de TFX, en une semaine, on tourne 10 ou 12 épisodes. Quand on est en direct, on fait 5 épisodes, les 5 épisodes de la semaine par semaine. Donc ça coûte au moins deux fois plus cher.
Il faut payer les techniciens, il faut payer l'animateur aussi, Christophe Beaugrand, voilà.
C'est surtout ça qui coûte. Voilà, vous imaginez même pas. C'est à cause de ça qu'on fait pas Secret Story. C'est à cause de mon salaire. Mais voilà. Aujourd'hui, compte tenu de l'écosystème économique des chaînes de la TNT, ça me semble difficile. J'espère, qui sait, mais a priori, moi, j'ai aucune info qui vont dans ce sens.
Alors, le 5 février prochain, Christophe Beaugrand, vous participerez à la deuxième saison de Star à nu en première partie de soirée, toujours sur TF1. C'est une émission où des personnalités font tomber le haut et le bas aussi, il faut le préciser.
On fait tout tomber.
On fait tout tomber.
On fait tout tomber.
Même vous, vous pouvez tomber.
Notre dignité, tout tombe, tout s'écroule, c'est une catastrophe.
Alors, l'idée de ce programme, au-delà effectivement de ce spectacle qui sera proposé sur la scène du Lido, c'est de sensibiliser le public contre le cancer du côlon. Pour quelle raison, vous avez accepté de figurer dans ce programme, parce que c'est vrai que là, pour le coup, il faut se dévoiler.
Ah oui, je vous confirme que c'est pas une décision qu'on prend à la légère. On me l'avait proposé l'année dernière. C'est Arthur qui propose l'émission, qui produit l'émission, pardon, qui me l'avait proposé. Il avait essayé de me convaincre. Il n'y était pas arrivé l'année dernière. Je le sentais pas. J'avais peur. Ouais. Et puis il se trouve que j'ai vu l'émission l'an dernier avec les petits camarades qui avaient accepté, Bruno Guillon, Alexandre Devoise, entre autres. Et j'ai trouvé l'émission formidable. Et surtout, je me suis dit que le divertissement était un moyen assez extraordinaire de dire des choses, de faire passer des messages, de prévention, de faire de l'information auprès du public sur tous ces cancers. En l'occurrence, c'était le cancer des testicules sur la première année. Là, c'est le cancer colorectal pour lequel on s'est tous mobilisés cette année avec mes camarades pour cette saison 2. Et c'est vrai que je suis devenu papa entre-temps aussi. Donc, ça me fait penser les choses un peu différemment. J'ai perdu mon père très jeune. J'avais 24 ans, il en avait 53 d'un cancer. Je me suis dit que, évidemment, Arthur m'a rappelé à essayer de nouveau de me convaincre et je me suis dit que j'allais pas pouvoir m'échapper ce coup-ci. Et je pense que c'est important de faire passer ces messages-là. J'étais prêt sans doute et puis j'ai vu surtout que l'émission était formidable. Voilà, j'ai manqué un petit peu de courage pour la première saison et du coup, j'ai pas réussi à dire non pour la deuxième. Je me suis mis un petit coup de pied au derrière et je me suis dit que ça allait être utile. Ouais.
Et quel souvenir vous gardez de cette expérience, sachant que vous êtes quelqu'un de pudique aussi, c'est ça?
Donc, ça se voit pas forcément, mais je suis quelqu'un de pudique, je suis quelqu'un de timide aussi. Je sais que quand les gens qui font de la télé disent ça, on ne croit jamais, mais c'est vrai. C'est très particulier parce que non seulement on se met à nu physiquement, pour le coup c'est le principe, mais il y a aussi, on laisse tomber pas mal de choses, de fragilité, on se met à nu. Personnellement, j'ai beaucoup parlé, je parlais de mon papa, j'ai parlé de mon père dans ce programme parce que j'ai voulu faire passer des messages au-delà des messages de prévention qu'on faisait passer. Moi, quand mon père est tombé malade, j'ai eu très peur et j'ai un peu fui, j'ai un peu fait comme si, j'ai fait l'autruche et il y a tout un tas de choses que je regrette aujourd'hui. Donc j'ai essayé de faire passer ces messages-là pour les jeunes qui se retrouvent confrontés à un cancer dans leur famille et que c'est important de se serrer les coudes, c'est important d'être proche des personnes malades et puis c'est important de dire le mot aussi parce qu'on a tendance à dire il est mort d'une longue maladie, ou il est atteint d'une maladie.
Sachant qu'on sait pertinemment que c'est un cancer.
Voilà, tout le monde sait que c'est un cancer, donc parlons-en. Jean-Pierre Pernaut l'avait fait avec beaucoup de classe, beaucoup de courage et il avait participé d'ailleurs. Il ne s'était pas mis tout nu, mais il avait fait un clin d'œil dans l'émission.
Avec un magnéto,
Exactement. Et du coup, je pense que c'est très important, le type d'exemple de Jean-Pierre, par exemple. Ça, c'est formidable. Il a eu un courage fou, mais ça ne devrait pas être du courage de parler de ce genre de choses. Donc, c'est ces messages-là aussi qu'on fait passer, au-delà des messages de prévention. Et puis, on se marre aussi, c'est surtout ça.
Il y a aussi beaucoup d'humour, effectivement. C'est pas anxiogène comme programme.
Ouais, c'est un vrai divertissement. C'est ça, je pense, le secret de cette émission, c'est qu'à la fois, les gens vont passer une bonne soirée, vont se marrer. Certains ou certaines vont peut-être se rincer l'œil. Et puis, surtout,
c'est vrai.
On va faire passer des messages. Et c'est ça qui est important. Et on va apprendre des choses aux téléspectateurs via le divertissement.
Sarah, on retourne du côté des internautes.
Oui, une dernière question. Elle est de Thomas qui a noté que Cyril Hanouna vous trouve désormais très bon, alors que ça n'a pas toujours été le cas.
Alléluia.
Ça y est, enfin.
Mais écoute, je ne sais pas.
Comment vous expliquez ce revirement?
Le mariage, c'est quand? Dites-moi.
Peut-être que je suis devenu très bon récemment. Je ne sais pas. Écoutez, c'est vrai que j'ai rarement été épargné dans ce programme, que pour le coup, je ne regarde pas, parce que souvent je bossais à ces heures-là, et puis après quand j'ai vu que je m'en prenais un peu dans la figure, j'avais pas forcément envie de regarder, mais il y avait toujours des bonnes âmes sur les réseaux sociaux pour me le dire, donc j'ai vu passer, j'ai pas vu non plus quand il a parlé de moi, mais j'ai vu passer un message, j'ai vu qu'il avait mis un message sur Twitter, et j'ai vu passer des messages qui vont dans ce sens. Ben écoutez, moi je travaille beaucoup depuis des années, ça fait plus de 20 ans que je fais ce métier avec beaucoup de passion, j'ai sûrement fait des erreurs, j'ai sûrement pas été très bon toujours, j'avais envie de faire ce métier depuis que j'étais gamin, au début j'étais persuadé que j'allais être très bon, et puis les premières émissions que j'ai faites, j'étais pas terrible, ça c'est une réalité, puis on apprend, on progresse, et donc moi j'ai toujours fait ce métier pour essayer de partager le plus possible avec les téléspectateurs, que ce soit dans l'information, dans ce que je fais sur LCI, dans le brunch tous les week-ends, ou dans le divertissement via différentes émissions, que ce soit les bêtisiers, Ninja Warrior ou la télé-réalité que j'ai pu faire aussi, et si jamais de plus en plus de gens prennent du plaisir ou apprennent des choses en regardant mes émissions, ça veut dire que j'ai gagné mon pari, et le rêve que j'avais quand j'étais gamin de faire ce métier, il continue, donc c'est grâce aussi aux téléspectateurs qui me suivent, donc si jamais je suis meilleur, ils seront de plus en plus nombreux, donc tout va bien. Merci Cyril, c'est gentil de vous en rendre compte du travail accompli et de l'effort.
Bah, c'est pas fini, si vous êtes de mieux en mieux, on va vous louer
vos talents. Là, à 70 ans, je serai patron de chaîne. Non, mais c'est vrai que, mine de rien, les gens ne s'en rendent pas toujours compte, mais c'est du boulot, et comme tous les métiers, à un moment donné, on apprend au fur et à mesure, et on progresse, ou pas, pas toujours hein, d'ailleurs, mais en tout cas, on essaye.
Alors, vous êtes aussi sur LCI, hein, Christophe Beaugrand, le samedi et dimanche de 10h à midi, je voulais vous poser cette question, parce que cette chaîne d'information continue, malheureusement, a été l'objet d'une polémique ces derniers temps, avec Alain Finkielkraut dans l'émission de David Pujadas. Il a été invité à réagir sur l'affaire Olivier Duhamel, on rappelle, accusé d'inceste sur son beau-fils, à l'époque âgé de 13-14 ans. Le chroniqueur a condamné ces actes qu'il a qualifiés de crimes abominables avant de s'interroger sur le consentement, et c'est à ce moment-là que LCI a décidé de l'écarter de l'antenne. Vous en pensez quoi? Est-ce que cette décision est juste? Il a réagi dans Le Parisien en disant que c'était injuste. Vous, quel est votre regard sur cette affaire?
Moi, pour le coup, je trouve cette décision tout à fait logique. Alain Finkielkraut, pour le coup, n'était pas animateur sur la chaîne. Il intervenait dans l'émission de David Pujadas une fois par semaine en tant que chroniqueur, mais il était rémunéré par la chaîne, et à partir du moment où il n'était pas invité sur cette émission, il était rémunéré en tant que chroniqueur. À partir du moment où on est rémunéré en tant que chroniqueur dans une émission sur une chaîne, sa parole, la parole que l'on a, engage nécessairement la parole de la chaîne, voire du groupe qu'il emploie, en l'occurrence le groupe TF1. Et il se trouve que ce type de déclaration contrevient complètement aux valeurs défendues par la chaîne. Et clairement, alors évidemment, on dénonce tous évidemment les accusations dont est l'objet Olivier Duhamel. Mais parler de consentement, quand on parle d'un enfant de 14 ans qui s'est fait abuser, c'est dégueulasse. Ouais. Voilà. Moi, je ne peux pas dire autre chose. C'est écœurant. Il faut toujours quand même penser aux victimes. On reproche souvent aux victimes de ne pas toujours prendre la parole, de dire « Pourquoi elle se réveille 10 ans après ?» Mais quand on entend quelqu'un à la télévision dire « Il y avait peut-être un consentement, il était peut-être d'accord », mais comment voulez-vous que les personnes violées, agressées, qui subissent des agressions sexuelles, prennent la parole? Si jamais on les accuse, on les soupçonne d'avoir été plus ou moins d'accord, peut-être de l'avoir cherché tant qu'on y est. Ouais. C'est le même type de discours qu'on tient quand on dit qu'une femme avait une mini-jupe, elle l'a quand même un peu cherchée, elle était habillée trop sexy. Ben non, désolé, on ne peut pas entendre ce genre de paroles. Ça a été prononcé, l'émission est en direct. David Pujadas, d'ailleurs, l'avait repris à ce moment-là. À un moment donné, si le discours d'une personne que l'on paye, qui est chroniqueur et qui engage la parole de notre chaîne, ne correspond pas à ce qu'on a envie d'envoyer comme message pour la société et comme message simplement d'information journalistique, c'est normal qu'on se sépare de la personne en question. Voilà.
Mais vous avez totalement raison, Christophe, mais une question aussi que je voulais vous poser, est-ce qu'on ne pousse pas justement ces intervenants qui viennent débattre sur un plateau au crime, dans le sens où effectivement, il n'y a pas de débat dans ce genre d'affaires, tout le monde est d'accord pour dire que c'est absolument infâme, et pourtant, dans les chaînes d'information en continu, là on parle de LCI, mais également sur BFM TV, CNews, on va faire un débat autour de cette affaire. Et là, forcément, vous allez avoir un pour, un contre, et bien forcément, la personne qui a un avis différent…
Alors, je ne peux pas vous répondre sur le… Moi, je suis pas là pour…
Il faudrait ne pas faire de débat.
Non, mais je ne suis pas là pour donner de leçons éditoriales sur mes camarades. Il y a des sujets qu'il faut en tout cas maîtriser. Et là, je vous le dis encore, un débat, c'est une chose. Avec un débat contradictoire, avec des personnalités invitées, c'est une chose. La prise de parole d'une personne rémunérée par une chaîne, c'en est une autre. Quoi qu'il en soit, moi, dans mes émissions… sur LCI, le samedi et le dimanche matin, le brunch, on peut débattre de beaucoup de choses. On parle souvent d'ailleurs de la liberté d'expression, parce qu'on a beaucoup parlé de l'affaire Mila, on a beaucoup parlé
des
caricatures de Charlie. On parle également, d'ailleurs, justement, de demain, nous avons parmi les invités Laetitia Avia dans l'émission pour reparler effectivement de la parole sur les réseaux sociaux. Donc ce sont des débats et des questions très intéressantes. Il faut simplement être conscient que lorsqu'on est une chaîne, lorsqu'on est un diffuseur, on a une responsabilité, on a potentiellement, nos propos peuvent avoir une conséquence et c'est important d'être conscient de la parole qu'on porte parce que voilà, les mots qui sont prononcés à l'antenne sont reçus et peuvent avoir des conséquences. Donc c'est très important d'être conscient de ces responsabilités-là.
Et bien là, on va aborder une chronique, figurez-vous, qui va avoir des conséquences très certainement très très lourdes sur votre carrière. Vous allez voir, bon, ça s'appelle le sucré salé, vous n'allez pas être déçu.
Alors je me concentre.
Bon, vous êtes un habitué du Buzz TV, vous connaissez le principe, on vous soumet deux propositions, il faut que vous n'en choisissiez qu'une. Une facile, très facile pour vous. Allez, Denis Brognard ou Iris Mittenaire?
Ça dépend pourquoi faire.
Ça dépend pourquoi faire. Allez, disons, je ne sais pas.
Pour le maquillage, ce sera Iris. Pour partir dans les îles, je choisirai Iris. Parce que Iris, elle vous invite dans les îles, mais pour aller dans les grands hôtels. Alors que Denis, il vous invite dans les îles pour aller bouffer des verres grands comme ça et pour crever de faim pendant 3 semaines. Donc, voilà.
Est-ce que vous êtes plutôt le brunch de l'info, donc votre casquette de journaliste, ou bien un Ninja Warrior, où là vous êtes davantage dans un rôle d'animateur?
Mais alors à chaque fois vous me demandez des ouais. choses où je... Alors je voulais que je vous dise, si jamais je ne faisais que du LCI, que du pure news, je m'ennuierais, je pense que je me lasserais, et si je ne faisais que du pur divertissement, l'info me manquerait. Moi je suis passionné par l'info, j'ai fait des études de journalisme quand j'étais plus jeune, quand j'avais 20 ans, j'étais passionné de politique quand j'étais gamin, et quand j'étais gamin j'aimais autant regarder les émissions politiques comme 7 sur 7 que Ciel Mont Mardi et Sacré Soirée. Et bien aujourd'hui ça n'a pas changé, j'aime autant incarner des programmes de pur divertissement que des programmes d'information, donc je ne choisirai pas, désolé, je suis sucré.
C'est pas grave, vous êtes vanillé chocolat, il n'y a aucun souci.
Toujours.
Est-ce que vous êtes plutôt à l'aise nu ou habillé?
Alors, je vous confirme, je suis beaucoup plus à l'aise habillé.
Habillé,
vraiment.
C'est vrai?
Les gens s'en rendront compte le 5 février, ça a été vraiment un challenge personnel, et pour tous les autres participants de l'émission, tous mes camarades, même ceux qui apparaissent nus souvent, comme Camille Lacour ou Laurent Mestré, mais tous, avec Jean-Phi, avec Gilles Alma, avec Cartman, avec Vincent Dezania, on a tous été poussés dans nos retranchements, vous allez voir qu'on s'est... on a dû prendre sur nous et ça a été un vrai travail,
Ah ben on a hâte de découvrir ça, Christophe Beaugrand. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Je rappelle qu'on vous retrouve donc dans Ninja Warrior. C'est ce samedi à 21h05 sur TF1. Star à nu cette fois-ci, c'est le 5 février sur TF1 également. Et puis le brunch de l'info, c'est tous les week-ends, samedi et dimanche, en fin de matinée.
Merci beaucoup à tous les deux.
Merci à vous, merci Sarah. Et on se retrouve demain avec un nouveau... pas demain, c'est samedi. On dort demain.
Non, vous me retrouvez demain, 10h, midi, le brunch de l'info.
En plus, ça va, on peut se réveiller dans ces eaux-là. Ça passe. Et on se retrouve lundi avec une visage d'antenne de Canal+, qui incarne le cinéma à la télévision. Cette fois-ci, il s'agit de Laurie Choleva, qui viendra nous parler donc de cette activité qui est malheureusement à l'arrêt pour les acteurs à cause du coronavirus. En attendant, on vous souhaite un excellent week-end et puis donc à lundi pour un nouveau Buzz TV.
Au revoir.